C'est un éléphant avec un costard vert.
Qui est roi. Et il a perdu sa mère, je crois.
Moi aussi, je me rappelle la couverture d'un livre Pomme d'Api avec un éléphant dessus, avec une couronne.
Ils sont majestueux, ils sont beaux, ils sont... je trouve qu'ils sont élégants.
On voit souvent aider les autres, donc peut-être aider les autres, ils t'aideront.
C'est un enfant, un éléphant qui vit comme un humain. Et...
je crois que j'aimais bien parce que l'éléphant m'avait attiré et puis surtout que le fait qu'un éléphant soit roi, c'est pas... les jours qu'on voit ça.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce costume vert ne peut pas être un détail ou un hasard. Le vert porte bonheur, dit-on. C'est la couleur de l'espoir. Or, d'espoir, il ne manque jamais. Ce monarque débonnaire en complet vert, toujours très élégant. Babar est le héros de Barbatruc cette semaine. Alors, je suis obligée de rappeler que Barbatruc est un mot emprunté à l'univers des Barbapapas. Rien à voir donc avec Babar. Mais je dois reconnaître qu'il y a aussi un plaisir très phonétique à parler de babar dans Barbatruc, c'est vraiment le béaba. Ce pachyderme mythique a 90 ans et il est toujours très bien identifié par les enfants d'aujourd'hui dans le monde entier. Il a presque un siècle, mais il est toujours vert en somme. Que raconte Babar sur la famille et sur le pouvoir? Faut-il voir dans ces histoires un éloge du colonialisme comme l'ont dit certains? Et à quoi tient surtout une telle célébrité? Pourquoi Babar est-il aussi attachant? Est-ce affaire de rondeur et d'optimisme? Je vous propose une promenade à Célesteville avec mes invités. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. En fin d'émission, on retrouve Denis Chessou pour son regard sur l'actualité du livre pour enfants. L'as-tu lu, mon petit loup? Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Humbert. Adèle Caglar est à la technique, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. Alors nous avons invité deux artistes en l'honneur de Babar aujourd'hui, deux femmes que ce roi des éléphants touche, Dorothée de Monfred et Maki Xenakis. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue sur France Inter, très heureuse de vous recevoir. Dorothée de Monfred, vous êtes autrice et illustratrice de livres pour enfants. Certains de vos ouvrages sont des immenses succès. La série Les Toutous, notamment à l'école des loisirs. On vous doit aussi un crocodile nommé Achille. C'est le héros de Je mangerai bien un enfant, livre que vous co-signez avec Sylviane Dogneau. Une histoire que je connais par cœur, comme beaucoup de parents. Je ne sais pas si je vous dis merci, en fait, vraiment. Il y a aussi un éléphant dans votre très joyeux bestiaire dans cette bibliographie. L'éléphant s'appelle Coco. C'est une série d'albums pour les tout-petits. Est-ce que vous avez été inspirée d'une manière ou d'une autre par Babar au moment de créer Coco?
Ça, c'est difficile à dire parce que je l'ai peut-être été, mais j'en suis pas consciente. C'est-à-dire que, comme souvent, c'est parti de croquis dans mon carnet et petit à petit, le personnage est né de quelques dessins et les histoires se sont construites peu à peu. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais faire mon Babar moi aussi. Pas du tout.
J'ai Coco et Sidonie sous les yeux, là, à l'école des loisirs. Je me dis déjà qu'il est un peu plus svelte que Babar, ce Coco.
Il a peut-être un cou un peu plus fin et puis surtout il est pas habillé.
Voilà. Le roi de Dorothée de Monfred est nu. Il y a un fil peut-être à tirer de l'éléphant à l'araignée. Maki Xenakis, vous êtes plasticienne, dessinatrice et écrivaine. Et si je parle d'araignée, c'est parce que Louise Bourgeois, artiste franco-américaine, très célèbre pour ses sculptures d'araignée, a eu une grande influence sur votre travail. Elle vous a encouragé, elle vous a guidé. Vous avez publié même un livre avec elle, L'aveugle, guidant l'aveugle. Un livre basé sur vos conversations aussi, Louise, sauvez-moi, chez Actes Sud. Et votre livre le plus récent, publié aussi chez Actes Sud, c'est Les folles d'enfer de la Salpêtrière. On y voit sur la couverture de ce livre ces sculptures emblématiques de votre travail, Maki Xenakis, des silhouettes longilignes, inquiétantes presque et colorées. Première question justement sur la silhouette de Babar, à la sculptrice que vous êtes. Que vous évoque la silhouette de cet éléphant roi?
Babar, il fait partie de mon enfance puisque c'était un des livres que je regardais le plus. Babar faisait partie de mes compagnons proches. Dans mon travail, il y a différentes choses, différentes formes, des dessins, des sculptures, et même dans les sculptures, il y a les formes longilignes dont vous parlez dans Les Folles d'Enfer, mais il y a aussi les créatures qui sont sur la couverture, par exemple, du dernier livre que j'ai écrit sur Louise Bourgeois, où là, je pense que...
Il y a plus de rondeur.
Mais plus ça va, plus je me dis qu'il y a peut-être un lien avec Babar.
Ah oui?
Parce que quand j'ai commencé à faire ces sculptures féminines, très rondes, sans bras, sans jambes, mais avec un gros ventre et une grosse poitrine et un regard qui nous appelle, C'était justement pour sortir un peu de cette angoisse de toutes ces folles d'enfer et toutes ces sculptures qui parlaient du malheur. Babar est peut-être pas pour rien dans ses formes rondes.
Il y a peut-être un peu de babar dans votre travail à toutes les deux, Dorothée de Monfred et Maki Xenakis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Babar, il faut le préciser, d'abord est né en 1931. Il n'avait pas vocation à être publié, hein, c'est important. Jean de Brunhoff, qui était peintre, a eu l'idée de dessiner ce personnage inventé par sa femme, Cécile de Brunhoff. Elle avait inventé ce roi éléphant pour ses enfants en leur racontant une histoire le soir. Ce livre, donc à destination de la famille, fut finalement publié. Ça a connu immédiatement un immense succès en France, mais aussi à l'étranger. Jean de Brunhoff est mort à 37 ans de la tuberculose. Et c'est son fils, Laurent de Brunhoff, qui a poursuivi les aventures de Babar, qui les a adaptées aussi en dessin animé pour la télévision. Laurent de Brunhoff est encore vivant, elle vit aux États-Unis. Ce sont une trentaine de livres au total, de 1931 à 2017. Quels souvenirs d'enfance, Dorothée de Monfred, associez-vous à Babar ?
Alors moi, j'avais pas les livres à la maison, mais par contre, une dame qui me gardait très très régulièrement, qui avait l'âge d'être ma grand-mère, avait ses albums. C'était les albums qui étaient à ses enfants quand ils étaient jeunes. Mm-hmm. Donc ils étaient très vieux. Et quand j'allais chez cette dame, je les prenais dans la bibliothèque de l'escalier. Je m'assieds sur l'escalier, je passais des heures plongée dans ce livre, comme ça, seule dans la maison. Enfin non, il y avait la dame, mais j'étais un peu seule dans l'escalier et l'univers de Babar prenait toute la place. Et c'était un peu magique parce que j'étais seule avec le livre et donc la relation était très forte, quoi.
Et vos yeux brillent quand vous parlez.
En plus,
malgré le masque.
C'était d'autant plus émouvant que, je ne sais pas si vous voyez dans la première histoire de Babar, on découvre la vieille dame, personnage emblématique. Et moi, je pensais que la vieille dame, c'était ma grand-mère, parce qu'elle ressemblait, mais avec des habits un peu plus anciens. Donc, ça me créait un lien encore plus fort avec le personnage et l'univers.
Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Ainsi démarre la toute première histoire, celle publiée en 1931. Je vous propose qu'on en écoute un extrait lu par François Morel, un livre CD édité chez Gallimard. Mar Jeunesse, le tragique épisode fondateur de cette histoire.
Barbatruc.
Dorothée Barba. Sur France Inter.
Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman. Un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Le singe se cache. Les oiseaux s'envolent. Babar pleure. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Quelques jours, bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons.
Musique de Francis Poulenc, avec sa mère est tuée par un chasseur sous ses yeux. Babar, c'est Bambi, Dorothée de Monfred.
Oui, ça ressemble, et ça ressemble à double titre, parce que j'ai entendu récemment que dans la version américaine, je ne sais pas si c'est des livres, des dessins animés, mais la mort de la mère a été supprimée, comme dans Bambi. Donc dans les DVD d'aujourd'hui, dans Bambi, on ne voit plus la mort de la mère, donc on ne comprend absolument plus rien à l'histoire.
Les Américains ne sont pas capables de voir la mort de la mère de Babar.
Certains Américains.
Maki Xenakis, cet épisode de la mort de la mère du petit éléphant vous a aussi marqué?
Je voudrais... J'ai envie de parler d'un souvenir, pas de mon enfance, mais quand je racontais mes enfants, je leur montrais Babar et Bambi. Je me souviens, ça m'est resté très fortement, parce que notre fils qui avait, je sais pas, 3-4 ans, regardait en boucle Bambi. Et moi, je supportais plus quand la maman se faisait tuer par le chasseur. Et à ce moment-là, tout d'un coup, comme il regardait ça en boucle, à un moment, je lui ai dit, mais c'est t'en as pas assez, c'est insupportable de voir la maman qui est tuée comme ça. Et là, il me regarde avec sa tétine dans la bouche et il me dit, mais maman, c'est pas grave, il y a le papa qui reste.
Il vous dit ça à vous.
Il me dit ça à moi. Donc je sais toujours pas comment le prendre.
Dorothée de Monfred, comment le prendre?
Mais ça, c'est un truc qu'on rencontre souvent. Je trouve la différence de perception entre ce que comprennent les enfants, ce que comprennent les adultes et ce que ressentent les uns et les autres. Et souvent, on se trompe. Et en fait, pour un enfant, je pense que c'est assez rassurant de voir évoquer ces choses-là parce que ça fait partie de la vie et c'est peut-être extrêmement dur et violent. Mais ne pas en parler est encore plus angoissant pour un petit. Donc, je trouve ça formidable qu'un livre puisse évoquer un épisode pareil sans faire de pathos et sans l'éluder non plus, de façon simple et juste.
Mettre des mots sur ce dont on a peur, finalement.
Voilà, exactement.
Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que c'est Cécile de Brunhoff, hein, la maman dans la famille Brunhoff, qui a inventé l'épisode de la mort de la maman. Pour ses enfants, en leur racontant une histoire le soir, c'est un peu terrifiant, non ?
Terrifiant, je sais pas. Moi, je trouve ça plutôt rassurant de voir que c'est possible et que ça fait un formidable livre que les enfants aiment.
On écoute la suite. Revoilà François Morel.
Que de choses nouvelles. Ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, ils sont très bien habillé. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire ? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame. » Sans perdre une minute, Babar va dans un grand magasin. Il entre dans l'ascenseur. Il trouve si amusant de monter et de descendre dans cette drôle de boîte qu'il monte 10 fois tout en haut, descend 10 fois tout en bas. Il allait continuer quand le groom de l'ascenseur lui dit « Ce n'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Maintenant, il faut sortir pour acheter ce que vous voulez. Justement, voilà le chef de rayon. » Alors, il s'achète. Une chemise avec col et cravate. Un costume d'une agréable couleur verte. Puis un beau chapeau melon. Enfin, des souliers avec des guêtres. Très content de ses achats et satisfait de son élégance, Babar va chez le photographe. Et voilà sa photographie.
Mais quelle allure ce Babar! Alors nous donnons la parole à des enfants et à des ados hein, chaque semaine dans Barbatruc. Aujourd'hui nous allons entendre des lecteurs et lectrices aguerris. Ce sont les jurés du Grand Prix des lecteurs du journal Mickey. Ils se sont réunis la semaine dernière pour remettre leur prix à Paris. Notre reporter Juliette Proutot a profité de ce vivier de lecteurs pour promener son micro et les faire parler de Babar. Première question évidemment, un éléphant en costard. Est-ce que ça vous étonne?
C'est une histoire comme quoi les animaux ils peuvent être civilisés, ils ne sont pas forcément sauvages, même si c'est des animaux de la savane.
Bah, c'est bien, parce que si on fait un éléphant roi, autant lui donner un air encore plus humain en lui donnant des amis, parce que les animaux ne s'habillent pas. Quoi.
Bah, en plus, ça ne me dérange pas, ça fait comme s'il était plus puissant peut-être.
Les animaux qui ont des habits, ça ne me gêne pas. S'il porte juste une couronne, ça donne l'impression qu'il est nu. Ça fait plus habillé pour un roi, parce que les rois sont plus habillés, ils portent des beaux habits.
En fait, les humains, ils sont représentés par des animaux, et Babar, il se comporte comme un humain, il porte des vêtements, il marche debout.
Peut-être un peu pour montrer qu'ils ont une vie presque pareille que la nôtre, comme les chimpanzés, voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas un mobilier, une maison, etc.
Je pense rien, juste le fait que dans sa chambre, il n'y ait pas de commode.
Merci pour cet aspect pratique des choses. Moi, j'aime beaucoup ce petit garçon qui dit « Les animaux qui ont des habits, ça me gêne pas. » Et vous, est-ce que ça vous gêne, Maki Xenakis ?
Oh bah non, surtout pas. Et puis, c'est pour qu'on arrive à croire que c'est pas des animaux sauvages. Et c'est comme ça qu'on accepte qu'ils nous transmettent, qu'ils nous enseignent, qu'ils nous parlent. C'est un peu comme ça dans toutes les mythologies antiques, anciennes.
On perçoit chez Brunhoff un goût pour les raffinements du monde bourgeois auquel il appartenait, Dorothée de Montfred. Il est très chic, ce Babar.
Oh bah oui, il est chic à l'anglaise, ça donne envie d'avoir le même costume, évidemment.
Il prend un ascenseur avec un groom.
Ce que j'adore aussi dans cette partie du texte, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent, c'est à la vitesse du désir. C'est très simple, et c'est comme un enfant qui rêve d'un truc et ça apparaît. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin de demander, la vieille dame devine qu'il a envie d'un habit, elle lui donne son porte-monnaie. Moi, ça me faisait fantasmer ce truc-là quand j'étais petite. Je trouve ça très, très juste, encore une fois. Et en même temps, comme il y a simplement l'essentiel, ça laisse beaucoup d'espace au lecteur enfant ou adulte pour investir ses idées et cet univers.
Qui avez-vous investi, vous, par exemple, précisément ?
La vieille dame particulièrement, Babar un petit peu moins, je pense. Et aussi les trois petits-enfants, mais ça c'est dans les histoires qui arrivent un peu plus tard, de la naissance de ces trois triplés. Où là, moi, j'avais, je sais pas, particulièrement beaucoup d'affinités avec Pomme, Fleur et Alexandre.
Dorothée de Monfred, est-ce en lisant Babar que vous vous êtes dit, moi aussi, quand je serai grande, je ferai des livres pour les enfants ?
Ça, c'est un grand mystère. Je sais pas du tout ce qui m'a donné envie de ça. En tout cas, c'est certain que ça m'a nourri, c'est certain que ça m'a inspiré, parce que ce qui m'a le plus impressionné, c'est la manière d'utiliser la page qu'avait Jean de Brunhoff, qui était très novatrice à l'époque, parce qu'il utilisait vraiment un format très grand, en laissant beaucoup de blanc, et en mettant en scène son personnage, en fait, plusieurs fois dans la page, en montrant l'action qui avance comme ça, mais l'image était d'un seul tenant. Donc on a l'impression vraiment que la page s'anime. Il y a une vraie chorégraphie des personnages qui se fait au fil du livre. Quand on tourne la page aussi, il y a le temps qui passe. Enfin, tout ça est vraiment... très très riche, et je pense que c'est le premier à avoir fait ça.
Voilà, Jean de Brunhoff, en effet, est le premier à varier le nombre d'images par page, et c'est ainsi que se crée un rythme. Il a vraiment influencé largement les albums jeunesse d'aujourd'hui.
Oui, absolument, et tout ça en restant extrêmement simple et lisible, ce qui est du grand art, quoi, le grand art de l'album.
On poursuit notre promenade à Célesteville juste après Juliette Armanet sur Inter.
Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, solo dans ma fête. C'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets solo, je prends l'eau, des matelots.
Xenakis, écrivaine et sculptrice, Dorothée de Monfred, autrice et illustratrice de livres pour enfants. Toutes les deux sont très attachées à Babar, le pachyderme monarque et notre héros ce dimanche.
France Inter, Barbatruc.
Je parlais tout à l'heure de Louise Bourgeois, qui était votre amie, Maki Xenakis. Il y a une autre figure tutélaire qui a marqué et qui marque toujours votre travail, c'est votre père, Yanis Xenakis, qui était compositeur et architecte. Vous travaillez d'ailleurs en ce moment sur une exposition qui est prévue pour 2022, pour le centenaire de sa naissance. Le personnage de Babar, dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'il vous ramène d'une manière ou d'une autre à votre père ?
Oui, il me ramène beaucoup à mon enfance et donc à lui, puisque quand j'étais enfant, il était très proche. On était très proches, on était très fusionnels avec ma mère. Et dans les albums que j'ai retrouvés de Babar, je dessinais comme un enfant de 3, 4, 5 ans. Mais après, j'ai vu qu'il y a des dessins où en fait j'essayais de recopier, parce que on était dans un appartement pas très grand. Mon père travaillait sur une table ses partitions de musique, ma mère écrivait ses romans à côté, sur la même table, dans un autre coin, et moi, pour que je les laisse tranquilles, en gros, il me faisait dessiner ou il mettait des BD. Et donc, j'ai retrouvé des partitions de mon père où j'ai gribouillé dessus, parce qu'il a noté la date et il m'a montré. Il a pas effacé, il a marqué que j'avais participé à sa partition. Et là, je me suis rendu compte, dans les bandes dessinées de Babar que j'ai retrouvées, que je recopiais des dessins qu'il avait faits sur lesquels je suis en train de travailler pour cette exposition.
Vos deux travaux sont liés à jamais, hein.
Oui, complètement.
Sa musique et votre œuvre picturale. Retournons à nos moutons et à notre Babar, précisément. Le statut de monarque ne manque pas de faire réagir. Écoutons ce qu'en pensent les enfants que Juliette Proutot a rencontrés, les lecteurs et lectrices du journal de Mickey.
Peut-être que le roi, ça va un peu sonner mieux sur un dessin animé qu'un président. Pour les plus petits, mais sur l'esprit, le président, c'est mieux que le roi, parce qu'il est élu par la majorité, et donc c'est un peu mieux.
Je trouve que ça fait plus, ça fait un côté sympa, parce que c'est comme s'il avait été, c'est le dessin qui lui avait dit qu'il devait devenir roi. Il n'a pas forcément eu envie de devenir roi, mais que du coup il essaie de faire comme s'il était comme n'importe qui, sans se dire oui, je suis au-dessus des autres, ils doivent m'obéir, etc.
Pour moi, il y a un roi, il y a un prince, il y a une reine. Mais président, il y a juste un président, c'est pas plus.
C'est bien que ce soit un roi gentil, parce qu'après, ça donne une bonne image. Parce que, en général, dans les dessins animés, on a tendance à montrer un roi qui fait de la dictature.
Bah, c'est bizarre qu'il soit vraiment super proche de son peuple, quand même. Et c'est un peu comme, on va dire, plutôt un maire, un peu moins qu'un roi.
Bah, déjà, président, c'est moins bien que roi, je trouve. Et que surtout, bah, par rapport à la nature, roi de la nature, etc. C'est un peu comme le lion, c'est le roi de la nature, c'est pas, on va pas dire président de la nature, c'est un peu bizarre.
Quand on est petit, on voit les rois comme des personnages importants, alors que quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, ils étaient pas gentils. Alors que du coup, là, ça nous incite à voir les rois de bonne manière.
Et voilà, on fait de la politique hein, dans Barbatruc, Dorothée de Monfred. Pourquoi n'est-il pas président, ce Babar ?
Oh bah pour moi, c'est peut-être pour le rattacher à l'univers des contes. C'est-à-dire que c'est plus un archétype, le roi, que le président. Le président, c'est l'histoire, c'est l'actualité. Et là, c'est pas tellement de ça que parle Babar.
D'ailleurs, amusez-vous à expliquer à un tout petit enfant ce qu'est un président.
Un autre jour, peut-être.
Non, je veux dire, voilà, c'est plus simple de parler du roi avec sa couronne.
C'est vrai. Oui, parce que c'est un archétype.
Je voulais que nous entendions dans cette émission sur Babar un spécialiste de la colonisation. Il est au bout du fil. Bonjour, Gilles Butch.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes anthropologue. Il est arrivé que certaines voient dans ces histoires d'éléphants rois un éloge de la colonisation, parce que Babar revient dans la forêt paré des atours de la civilisation occidentale et qu'il devient roi. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est très intéressant quand on relit Babar aujourd'hui, de voir effectivement comment s'est construit le modèle colonial. Finalement Babar part après la mort de sa mère, qui a été tué par un chasseur européen. Il part en Occident, apparemment, il se transforme, il revient avec un costume, donc il est entre guillemets un petit peu civilisé. Et paradoxe, il va effectivement être roi, mais à l'époque, les rois des animaux, ça existait, sauf que c'était pas l'éléphant, c'était le lion. Mais il y a effectivement la royauté dans le règne animal, dans la mythologie. Ce qui est intéressant sur Babar, d'abord, il a été fait en 1931, et vous savez qu'en 1931, c'est la grande exposition coloniale universelle qui a lieu dans le bois de Vincennes. C'est d'ailleurs aussi l'année, ça faut pas oublier de le rappeler, de la naissance de Tintin au Congo. Donc c'est effectivement des regards particuliers qui vont se construire concernant l'Afrique à partir de l'Occident pour des enfants. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants ? Eh bien, on va enseigner aux enfants, quand on prend, par exemple, le voyage de Babar, eh bien, on voit que des vilains cannibales africains essayent de manger Céleste, la femme de Babar. Bon, heureusement, il va la délivrer, vous en doutez. Babar, il va en Occident, il revient avec des costumes, il revient avec tout ce qu'il peut y avoir en Occident, des orchestres, des défilés, etc. Et même des bâtiments qui sont construits vraiment sur le modèle occidental. Donc vraiment, Babar, c'est l'apport de l'Occident à l'Afrique. Et il n'y a pas d'Africains, sauf quand ils sont cannibales. C'est quand même paradoxal.
Comment est-on sûr qu'on est en Afrique ?
Alors, comment est-on sûr qu'on est en Afrique ? Il y a quand même des paysages qui s'y prêtent, quoiqu'il y a beaucoup d'opéras, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais vous avez de nombreux animaux, vous avez les animaux africains, vous avez les ibis, vous avez les flamands, vous avez les rhinocéros. Vous êtes vraiment en Afrique. Je veux dire, les endroits où les animaux se promènent en liberté, c'est plutôt en Afrique. Même si Babar revient avec un costume trois pièces.
Il est certain que, voilà, on est dans les années 1930, il est certain que la colonisation... 1931, premier ouvrage. Il est certain que la colonisation fait partie du contexte historique de la naissance de ce personnage. Est-ce pour autant un éloge de la colonisation, Gilles Butch ?
Eh bien, ce n'est pas en tout cas un désaveu. Mais comme vous dites, c'est en 1931, c'est un contexte extrêmement particulier. Il y a l'exposition coloniale universelle qui va être finalement l'apnée de la colonisation, c'est son plus grand moment, et puis c'est aussi le début de sa fin. Et Babar est là pour montrer effectivement un petit personnage peut-être sympathique. Alors il y a eu des travaux qui ont été faits sur Babar. Il y a des ethnologues chiliens et américains qui ont décrit le manque de démocratie, une oppression, etc., etc., ce qui est vrai aussi. Mais c'est malgré tout, quelque part, le symbole de la colonisation, Babar.
Comment réagissez-vous à ce que viennent de dire les enfants ? C'est plus sympa qu'il soit roi que président, ce Babar.
Parce que roi, ça fait partie, effectivement, de toute la mythologie et des contes. C'est-à-dire, dans les contes, il y a toujours un roi. Vous avez déjà vu un président de la République dans les contes pour enfants ? Jamais. Il y a évidemment un roi qui est soit gentil, soit pas gentil. Enfin, ça, vous voyez, après, on rentre dans des choses extrêmement subjectives. Mais en tout cas, concernant les animaux, ça ne peut être qu'un roi. Je vous dis, il y a le roi lion, il y a des lions qui sont en général la catégorie animale qui représente la royauté. Mais Babar est plus fort que le lion.
Ni éloge, ni désaveu donc de la colonisation. Est-ce que vous conseillez d'annuler Babar ou de ne pas le lire en 2020 ?
Non, il y a un livre qui a été fait qui s'appelait « Faut-il brûler Babar ?» Non, parce que moi je ne suis pas pour brûler et détruire les choses, ça fait partie de l'histoire. On a toute une histoire à déconstruire et à réinventer, à retravailler en tant que scientifique. Et brûler les choses, c'est la dernière, à mon avis, des choses à faire. Et ça, c'était un ouvrage de l'Américain Herbert Paul, en 1975, qui avait dit « Faut-il brûler Babar ?» Voilà.
Merci beaucoup, Gilles Butch. « Sexualité, identité et corps colonisé », c'est le titre de Absolument. Votre dernier livre. Ouvrage collectif au CNRS Édition. Bonne soirée, à bientôt sur Inter.
Merci, au revoir. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep. Find out your effect on me. Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven.
yes I will.
Everything you touch is gold. C'était Grégory Porter sur France Inter. Babar est notre héros de la semaine dans Barbatruc avec Maki Xenakis, qui est artiste, plasticienne, écrivaine, et avec Dorothée de Montfred, autrice, illustratrice de livres pour enfants, mais aussi pour adultes. Tenez, on l'a pas encore dit. Les choses de l'amour, c'est le titre de votre dernier livre, Dorothée de Montfred, et ça n'est pas du tout pour les enfants, je crois.
Ah non, alors c'est un recueil de strips en noir et blanc qui raconte
des petites bandes dessinées
en quatre cases qui racontent des histoires d'amour torrides entre objets.
Voilà, par exemple un grille-pain et une tartine.
Voilà, par exemple.
Ou des fruits dans une corbeille de fruits.
Voilà, ou des briques de Lego.
Les choses de l'amour, édition Misma. Retournons à notre babar, Dorothée de Montfred. J'aimerais votre réaction à ce que disait tout à l'heure l'anthropologue Gilles Boetsch. Ni éloge, mais ni pour autant désaveu de la colonisation, cette histoire.
C'est sûr que c'est un contexte qui était très présent à l'époque et qu'on le voit dans les bouquins. C'est indéniable, on ne peut pas passer à côté. Mais après, se servir de ça comme grille de lecture pour les histoires de babar, je trouve que ce serait extrêmement réducteur parce que c'est pas du tout ça que transmettent les histoires. C'est pas ça les affects. Et puis même si on se concentre que sur ce côté civilisation occidentale qui vient transformer la ville des éléphants, il n'y a pas non plus la notion d'exploitation des ressources des éléphants pour aller enrichir la ville. Donc bon, c'est un contexte, mais c'est discutable. Par rapport à Tintin, c'est quand même
beaucoup moins gênant et problématique que Tintin. Je vous propose qu'on écoute à nouveau Babar, mais cette fois dans un dessin animé des années 1990. Babar est encore un enfant, il est déjà roi.
Pompadour ?
Oui, votre Altesse. Le premier problème sera la libre accession au point d'eau.
Bien sûr, nous n'avons aucun droit, car certains reptiles un peu trop corpulents mettaient leur grande gueule là où étaient nos poissons.
Vos poissons, voyez-vous ça ?
Problème numéro 2, Pompadour ?
Les droits de pêche.
Les poissons peuvent facilement être remplacés par des imbéciles.
Problème numéro 3.
La pollution des points d'eau de la forêt.
Et ça veut dire quoi exactement, les déchets des rhinocéros ?
Problème numéro 4.
L'élimination des déchets, je suppose.
Les marais étaient autrefois une région bien agréable, jusqu'à l'arrivée des crocodiles. Tu veux peut-être sortir de ta coquille et venir me répéter ça en face ?
S'il vous plaît, il serait grand temps de se calmer quelque peu. Sa Majesté le roi Babar a un plan à vous communiquer.
Oh, ce n'est qu'une idée, bien entendu, mais nous pourrions peut-être utiliser les déchets des rhinocéros pour combler les marais. On apporterait du sable et on aurait une belle plage autour du lac, un lac rempli de poissons. Ainsi, les crocodiles auraient leur point d'eau et les tortues auront leur lac. Les oiseaux et le reste d'entre nous pourront se baigner ainsi dans le lac.
Pourquoi ?
Pour mettre un terme à tous ces problèmes, pour travailler ensemble à créer une meilleure forêt.
Moi, ça me plaît.
Il y a des possibilités, oui.
Ça me paraît très bien.
C'est ridicule.
Problème numéro 5.
Mais il n'y a pas de problème numéro 5, votre majesté.
Il y en a un maintenant. Sauver la forêt.
Mais de qui ?
Du chasseur. Il est revenu en force.
Je suppose que ça veut dire que nous sommes obligés de faire une croix sur la plage pour l'instant.
Mais j'ai compris. Voilà pourquoi on nous a demandé de participer à ce conseil. Babar veut tout simplement que nous l'aidions à combattre le chasseur.
Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous ne comprenez pas. Mais personne n'est à l'abri si on ne s'unit pas contre lui.
Mais oui, je sais parfaitement ce qu'il veut. Ce sont vos défenses.
Mes défenses.
Mais les vôtres aussi.
Oui, pour les bijoux et les touches de piano. Mais ils veulent aussi des chaussures de crocodile, des sacs en zèbre et en girafe. Et vous vous retrouverez accroché au mur de son salon. Et vous en soupe. Et les cornes de rhinocéros sont les trophées les plus recherchés par tous les chasseurs. Je sais, je suis allée à la ville et je vous jure que j'ai vu toutes ces choses.
Peut-être, mais c'est la vie sauvage, Babar. Et tout le monde doit apprendre à se défendre seul, quel que soit le problème. J'ai raison, non ? Sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que j'ai raison.
Bon, très bien. Ceux qui veulent s'unir pour protéger nos maisons restent. Tous les autres peuvent partir.
Extrait d'un dessin animé des années 1990, et vous avez reconnu l'une des voix, Dorothée de Montfred.
Ah mais oui, il y a Roger Carrel.
Roger Carrel, évidemment, disparu récemment, immense comédien qui prêtait sa voix à plusieurs personnages d'ailleurs dans cette série d'animation.
héros non violent, pacifiste, il est gentil, Babar. Est-ce que ce mot convient, à votre avis ?
Oui, c'est vrai. Alors, c'est un mot qui est trop utilisé, parfois de façon un peu péjorative et réductrice, mais il est vraiment doux et bon et généreux, ça fait du bien.
Pourrait-on dire à certains égards que cette histoire est une utopie ? Quand on l'entend diriger Céleste Ville, on se dit que ça ressemble un peu à une utopie.
Oui, c'est vrai. Dans les albums, en tout cas. Là, moi, je reconnaissais moins dans l'extrait du film l'univers que je connais, parce que déjà, il n'a pas la même voix que dans les albums. Le roi Babar, c'est très perturbant.
Il n'a pas la même voix que dans le livre. Oui, évidemment.
Et puis, c'est plus touffu. Il n'y a pas cette économie qu'il y a dans les albums. Forcément, si c'est un long métrage, c'est un peu compliqué de faire la même chose. Mais oui, Céleste Ville, c'est une utopie complète, c'est sûr.
D'ailleurs, Babar est roi, mais il donne le nom de sa femme à la ville. Finalement, le babarisme est un matriarcat.
Voilà. Bonne nouvelle.
Je faisais un parallèle tout à l'heure, Dorothée de Monfred, entre Babar et Coco, l'éléphant que vous avez créé. Il y a un autre point commun sans doute entre les deux, c'est le public, l'âge du public. Babar est un éléphant qui séduit surtout les tout-petits, hein, comme Coco. Comment s'adresser aux plus jeunes ? Est-ce qu'il y a un secret ? Quel est le secret des personnages qui les touchent, puisque vous en avez créé plusieurs ?
Alors, secret, je ne sais pas, mais moi, j'ai une grande théorie. Enfin, c'est la manière dont je ressens les choses. C'est que j'ai l'impression que quand on grandit, on garde en soi tous les âges qu'on a eus. Et ça s'empile comme ça. Et moi, j'ai la sensation de pouvoir voyager de l'un à l'autre avec un ascenseur.
Comme Babar.
Intérieur. Et voilà, exactement, on y revient. Donc, en fonction de ce que j'ai envie de raconter, je vais favoriser un étage quand j'ai envie de raconter une histoire qui semble s'adresser à des enfants plus jeunes ou plus âgés. Mais je me le dis pas consciemment, je me dis pas, ah tiens, je vais faire une histoire pour les 5 ans, donc je vais penser comme ça. Non, c'est juste que je vais faire appel à des souvenirs, des sensations, des choses que j'ai en moi qui datent de mon enfance et qui sont toujours présentes, puisqu'évidemment, tous, on a notre enfance en nous comme un socle.
On l'a tous un peu sédimenté quand même, peut-être vous moins que les autres.
Mais je ne comprends pas pourquoi les autres ont ça moins que moi, surtout.
Maki Xenakis, vous avez sédimenté votre toute petite enfance ou elle est encore présente, comme chez Dorothée de Monfred ?
Oh, malheureusement, elle est trop présente, je pense. Ce serait mieux qu'elle soit un peu plus loin. Mais en même temps, pour être artiste, ou pour écrire, ou pour faire ce que je fais, il faut être à la fois très très adulte et en même temps essayer d'avoir une part comme ça de découverte, puis aussi d'aventure. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance.
Dorothée de Monfred ?
Oui, parce que on n'est pas des enfants, on est vraiment des adultes, mais on doit un peu se couper en deux, en fait. Mmh. C'est-à-dire avoir la sensation de l'enfance et l'émotion la plus fraîche possible, tout en ayant le côté analytique de l'adulte pour pouvoir en faire quelque chose. Mmh. Sinon, ça donnerait rien. Donc, il faut avoir la double vision.
Retournons voir les enfants au micro de Juliette Proutot. Question importante, est-ce que ça marcherait s'il voyait le jour aujourd'hui, ce bon vieux Babar ?
Ça pourrait encore marcher, mais il faudrait le moderniser, l'adapter à l'époque où on vit. Par exemple, que ce soit plus un président qu'un roi, que le matériel qu'ils ont soit plus moderne, justement, des téléphones.
Par exemple, en ajoutant dans leur maison, dans leur palais, voilà, des choses qu'on a plus aujourd'hui ou des choses qui ont évolué, par exemple, mais aussi leurs habitudes ou ce qu'ils mangent, etc. quoi.
À l'époque, c'était vraiment l'homme qui était mis en avant et pas encore la femme. La femme était plus en retrait par rapport à l'homme. Et je pense que s'il ressortait la même chose, il y aurait des scandales à cause de ça.
Moi, je suis assez d'accord, surtout qu'en ce moment, on essaie de mettre de plus en plus en avant la femme. Surtout qu'avant, c'était celle qui devait s'occuper des enfants, elle n'avait pas de travail. C'était l'homme qui devait juste aller travailler et sinon elle s'occupait de faire la cuisine, le ménage, etc. C'est mieux que ça change. Mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne mettre tout le temps la femme en avant et au final faire l'inverse de ce qui se passait il y a 50 ans.
On aurait pu mettre une reine au lieu d'un roi ou même qu'elle soit président et faire voir les hommes de meilleure manière. Parce qu'au début, je crois qu'il y a un chasseur qui tue les éléphants.
Il est trop mignon, cet adolescent qui craint que le sexisme inversé ne frappe l'époque contemporaine, Dorothée de Monfred.
Il faut qu'on fasse très très attention à ça, oui,
très
c'est
attention.
Un gros risque.
Le péril guette. Merci beaucoup aux lecteurs du journal de Mickey d'avoir répondu aux questions de Juliette Proutot, Arthur, Yousra, Antoine, Lola, Héloïse, Léna et Paul. Et j'en profite bien sûr pour citer les prix qu'ils ont décernés la semaine dernière. Lulu et Nelson a été couronné dans la catégorie BD, une bande dessinée parue chez Delcourt. Et le grand prix du roman des lecteurs de Mickey a été décerné décerné à l'incroyable voyage de Coyote Sunrise chez Pocket Jeunesse. Un dernier mot sur ce babar, peut-être, Dorothée de Monfred. Est-ce que vous diriez que ce personnage, encore plus que tous les autres personnages pour les enfants, laisse une grande liberté d'interprétation au lecteur et à la lectrice?
Ah bah oui, absolument.
Il n'y a pas de morale?
J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Alors après, il y a une vision du monde. Donc forcément, une vision du monde, elle contient aussi une morale ou au moins une éthique de l'auteur. Mais le fait que ce soit très simple, il y a beaucoup d'espace dans le texte, il y a beaucoup d'espace dans les dessins, et ça permet de voyager à l'intérieur et de le relire à chaque fois avec un regard différent et d'y trouver des choses sans cesse renouvelées, quoi. Donc plein d'interprétations possibles, oui.
Maki Xenakis, vous nous disiez tout à l'heure que vous commenciez tout juste à réaliser que votre travail d'aujourd'hui est sans doute inspiré en partie par cette silhouette ronde de Babar. Est-ce que vous pourriez y travailler plus précisément? Est-ce que Babar pourra vous inspirer à des travaux demain?
Non, je pense pas au niveau de la bande dessinée, des dessins, mais même si ça m'a accompagnée, parce que c'est vrai que les dessins sont, il y a énormément de détails là en les regardant à nouveau. Il y a des tas d'histoires différentes dans chaque coin du dessin. Il y a tout le temps des choses qui se passent qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On voit énormément de, puis visuellement c'est très beau, c'est très imaginatif. Donc ça, j'aimerais bien m'en inspirer pour avoir autant de talent. Mais non, c'était juste par rapport à un souvenir personnel. Moi aussi, j'ai eu une vieille dame comme Babar qui a été très importante dans ma vie. Et cette vieille dame, j'en parle beaucoup dans mes livres d'ailleurs, très souvent elle revient. Et elle était très ronde. Je l'appelais Tata Gros parce qu'elle était très ronde. Elle avait accepté que je sois la seule à l'appeler comme ça. Mais les adultes n'avaient pas le droit de l'appeler comme ça, mais moi j'avais le droit. Et j'adorais cette femme, et du coup on était très proches, elle s'occupait beaucoup de moi. Elle faisait sa toilette toute nue devant moi, elle se frottait le dos avec un gant de crin. Et pour moi c'était, dans mes souvenirs, comme un éléphant rose magnifique, voilà. Et donc je pense que Babar, j'ai un peu associé Babar ou Célestine, la femme de Babar, à cette Tata Gros, beaucoup.
Cette Tata Gros, elle est moitié babar, moitié vieille dame.
Voilà.
Et elle fait la synthèse, c'est magnifique.
Et elle est revenue dans mes petites bonnes femmes que j'ai faites en sculpture.
Elles sont de toutes les couleurs, vos petites bonnes femmes.
Voilà.
Merci beaucoup pour ce très joli souvenir.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Deux, trois petits conseils culturels pour les enfants à présent, comme chaque semaine à 7h06. Je voudrais d'abord vous signaler un nouveau podcast Jeunesse, France Inter, avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est un petit bijou signé Mathieu Vidard.
Je suis ce qu'on appelle une intelligence artificielle.
Tais-toi, Philippine.
Et j'ai pour mission de sauver les semences de la fonte des glaces.
Je peux te tutoyer ?
Autorisation acceptée.
Je n'ai jamais vu de choses comme toi.
Je le prends comme un compliment.
Elle s'appelle Olma, c'est une machine de la connaissance, une intelligence artificielle qui se nourrit de toutes les connaissances du monde. Des scientifiques du monde entier viennent à sa rencontre sur l'île de Spitsberg en Norvège pour lui expliquer leurs travaux de recherche. Et ce sera l'occasion pour les enfants qui écoutent ce podcast de découvrir ces chercheurs et chercheuses. Olma est vivement recommandée aux 8-12 ans et c'est déjà disponible sur vos applications de podcast. Et comme on pense à vos trajets en voiture, en famille, pour les vacances de la Toussaint, une nouvelle livraison des Odyssées est prévue pour la semaine prochaine. Les Odyssées, ce sont des histoires vraies, des épopées racontées avec fougue et talent par Laure Grand-Besançon. Au programme de cette nouvelle fournée, un épisode sur l'aventure d'Apollo 13, un autre sur la vie de la sorcière Jeanne de Brigue ou encore le combat de Nelson Mandela. Voilà pour les oreilles. Il est temps de filer en librairie avec Denis Chessou. Ses conseils, son regard sur l'actualité du livre pour enfants.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La Tulimon du Loup.
Et on commence par le Talisman du Loup de Myriam Daman et Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda aux éditions Gallimard Jeunesse à partir de 5 ans. Dans une forêt sombre et oubliée du Nord, vivait un loup.
C'était le plus grand loup que la Terre ait jamais porté et tous les animaux le craignaient.
Tous les jours, au milieu de ses occupations de loup, il s'attardait en secret devant une cabane pour observer une jeune femme.
Chevelure noire comme la forêt et sauvage comme les herbes. Au fond de ses yeux, le loup devinait une tendresse qui l'émouvait profondément.
Chaque matin, elle s'aventurait dans la forêt en chantant pour remplir son seau. Puis elle retournait auprès de son père malade. Et chaque matin, le loup s'enivrait de son chant. Mais un matin, il ne la vit pas.
Rampant parmi les ombres, il s'approcha de la cabane. Il vit la jeune fille pleurer. Le lit de son père était vide. Son cœur s'emplit de tristesse.
Le loup se languissait d'entendre à nouveau les chants qui lui emplissaient le cœur. Alors qu'il chassait un lapin, il entendit une voix.
« Relâche-moi, en échange, je t'aiderai. Je connais ta peine. »
Le lapin se transforma en enchanteur. Il indiqua au loup de suivre une mélodie à travers la forêt pour trouver un remède à son chagrin. Arrivé au pied d'une montagne, il la gravit et le loup trouva alors un immense œuf avec une étrange lanière autour.
Le loup y passa la tête. Aussitôt, la lanière se resserra autour de son cou et l'œuf se rétrécit jusqu'à prendre la taille d'un minuscule grelot.
Ainsi paré, le loup retourna voir la jeune fille. L'animal sentit que quelque chose avait changé en lui. Oui, il pouvait désormais lui parler.
« Promets-moi de ne jamais te retourner. J'écoute tes chants et ils font danser mon cœur. Je ne souhaite rien d'autre que de t'entendre chanter à nouveau. »
Elle ne se retourna pas et fit la promesse de chanter pour lui. Et en échange de sa musique, le loup lui conta les histoires, mystères de la forêt. Ça a duré 7 jours. Mais quand il quitta la cabane pour aller chasser, un problème surgit.
À chacun de ses pas, le grelot sonnait à son cou, annonçant sa venue à toute la forêt.
Incapable de chasser, le loup maigrit. Alors la musique le nourrissait, mais au bout du 8e jour, le loup s'écroula. À son réveil, la jeune femme était à ses côtés, mais son pouvoir avait disparu. Il ne pouvait plus lui parler.
Il vit alors que la jeune femme portait l'amulette autour du cou et qu'un léger sourire éclairait son visage.
Elle pouvait dorénavant parler avec lui.
Un secret est plus léger lorsqu'on le porte à deux.
Et c'est ainsi que dans cette forêt sombre et oubliée du Nord, que vivait une jeune femme qui savait parler au loup. Et donc, dans ce très beau livre qui s'apparente à un grimoire précieux, vous avez donc à l'intérieur des savoirs ancestraux et un imaginaire merveilleux. Mais en fait, c'est une histoire d'amitié, celle où la confiance et la compréhension permettent de triompher des obstacles et où la dévotion permet d'accepter les sacrifices au profit de l'équilibre de la nature. Le Talisman du Loup, Myriam Daman, Nicolas Digard, Julia Sarda, aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est à partir de 5 ans. Mythe au carré, signé Loïc Gaume aux éditions Thierry Magnier à partir de 5 ans. Et Et si tous les mythes grecs pouvaient tenir en quatre cases, une gageure, car ils ne sont pas vraiment réputés pour leur simplicité, les filiations sont épineuses, les querelles éternelles entre les dieux de l'Olympe, alors plume métallique et encre de Chine, et hop, l'auteur se lance. C'est concentré, mais ça fonctionne. Quelques phrases, quatre cases, avec des pictogrammes qu'on apprivoise très vite pour comprendre le mythe.
Gaïa et les débuts.
Chronos et la naissance des dieux.
Hermès, Prométhée, le voleur de feu.
La boîte de Pandore. Athénée, Héra et la naissance de la Voie lactée.
Zeus essaye de faire boire le lait d'Héra à Héraclès pour le rendre immortel. Mais elle le repoussa et le lait gicla, formant la Voie lactée.
Monstres et créatures cruelles, oracles et malédictions en tout genre, tout y passe.
Les 12 travaux d'Hercule.
Ulysse, épisode 1 et 2.
La malédiction d'Oedipe.
Le jugement de Midas.
Jason et la toison d'or.
Vous en voulez encore un petit peu, aller en 4 cases, le Minotaure ?
Thésée vous y attend.
Alors je vous rajoute une petite guerre de Troie.
Un peu de Dédale et Icare.
Et ça vous donne un joli livre carré, comme il se doit, qui permet donc de rentrer pour la première fois dans ces classiques ou de les revisiter et d'en garder les moments clés. On approfondira dans d'autres livres. C'est efficace et malin, Mytho Carré, édition Thierry Magnier à partir de 5 ans. Merci à Xavier Pestudja pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis. Toutes les références des livres ici recommandés sont disponibles sur le site de France Inter, à la page de L'as-tu lu, mon petit loup. Nous avons ausculté Babar avec mes deux invités, Dorothée de Monfred et Makis Xenakis. J'ai une dernière question à vous poser avant de vous laisser tranquilles toutes les deux. Question rituelle dans cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Makis Xenakis.
Alors c'est difficile de choisir parce que j'ai plusieurs odeurs d'enfance très importantes. L'odeur du maquis corse quand je faisais du camping en Corse avec mes parents. Les tilleuls de chez ma tata Gros à la campagne.
Toujours elle.
L'odeur des tilleuls. Et je crois que celle qui est le plus importante de mon enfance parce que les autres elles ont continué en vieillissant. Alors que celle-là, elle s'est arrêtée net parce que justement, ma tata Gros trouvait que c'était un peu choquant d'aimer cette odeur. C'est qu'à côté de la maison de campagne de cette tata, ma tata Gros, il y avait une ferme et j'avais mes amis d'enfance. Et donc, j'allais chercher les vaches, on voyait les cochons et j'adorais l'odeur du pipi de cochon. Et quand je disais ça à ma tata, elle me disait « c'est pas bien ma petite fille ». Donc j'ai arrêté d'aimer ça.
Vous avez arrêté sur la volonté de votre tata.
J'ai senti que oui, ça lui plaisait pas et qu'il fallait que j'arrête.
Mais est-ce qu'on peut arrêter d'aimer une odeur, Makis Xenakis ?
Depuis, je me suis pas retrouvée dans une porcherie.
Le pipi de cochon, c'est donc la nouvelle odeur dans notre inventaire de l'enfance et franchement, ça fait plaisir. Dorothée de Monfred, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance ?
D'abord, je me demande si l'odeur du pipi de cochon, c'est pas un truc qui ressemble à l'odeur de la truffe.
Alors ça,
je sais pas, je voudrais chercher.
On lance un appel à nos auditeurs. Écrivez-nous à la page de Barbatruc, s'il vous plaît.
J'adore l'odeur de la truffe. Hein. Mais bon,
sinon, et du pipi de cochon.
Ça, je sais pas.
Quelle est l'odeur de votre enfance?
L'odeur de mon enfance, moi, ce serait plutôt l'odeur de la mousse dans les sous-bois quand on va chercher des champignons. Un peu humide, comme ça, et vert. Et voilà.
Comme chaque semaine, je prends un bocal et je mélange les deux odeurs, le pipi de cochon et l'odeur des sous-bois. Merci infiniment à toutes les deux, Dorothée de Monfred. Impossible de citer tous vos livres. Je recommande en particulier Nuit Noire à l'école des loisirs pour les tout-petits. C'est déjà un classique de la littérature jeunesse, l'histoire de Fantin, quel joli prénom, qui a peur tout seul dans la forêt. Et tout se termine par un chocolat chaud. Également à l'école des loisirs, Les Toutous à Paris, une promenade loufoque dans la capitale avec des chiens qui ne pensent qu'à manger et qui escaladent la tour Eiffel. On a mis un lien vers toute votre bibliographie sur le site de France Inter à la page des Barbatrucs. Les choses de l'amour aussi pour les adultes aux éditions Misma. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Ah non, je voulais dire que je suis super contente qu'on parle des toutous parce que je suis en train de travailler en ce moment à l'écriture d'une série animée. Série animée musicale avec ces personnages.
Ils vont vivre à la télévision.
Mais j'espère que ça va être mené à bien, oui.
Vive les toutous. Makis Xenakis, Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière, c'est-à-dire chez Actes Sud. Tout comme Louise, Sauvez-moi, conversation avec Louise Bourgeois. On peut voir vos sculptures à Issoudun en ce moment, c'est ça, hein, le musée de l'Hospice Saint-Roch. Et on attend pour 2022 cette grande exposition sur le travail de votre père, Yanis Xenakis. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci.
À bientôt
beaucoup
sur France Inter. La semaine prochaine, un petit gars qui n'est pas grand, mais qui est vaillant. Kirikou sera le héros de Barbatruc dimanche prochain.